France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Frédéric Neuburger. Je suis né à Paris, dans le 13e arrondissement, en 1986. Et je suis pianiste et compositeur.
Bonjour Jean-Frédéric Neuburger.
Bonjour Judith.
Merci beaucoup de nous accorder ce temps. On entendait, vous êtes né en 1986, à peine 35 ans. En même temps, on a l'impression que vous avez déjà eu plusieurs vies. Pianiste, compositeur, pédagogue. Vous le voyez comment, vous, ce temps qui passe?
Comme tout un chacun, avec ce recul qui se crée au fur et à mesure des années qui passent. Et plusieurs vies, non, je ne pense pas, mais c'est vrai que j'aime bien vivre ma relation à la musique d'une façon toujours différente, et c'est vrai qu'elle a beaucoup changé, cette relation à la musique, depuis que j'ai commencé à vivre avec la musique, depuis mon adolescence, disons, ou même un peu avant. Mais je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir toujours cette relation à la musique qui change, qui évolue, qui n'est pas figée, qui est toujours quelque chose de vivant dans cette relation, et c'est pour ça que on peut parler de plusieurs vies peut-être, mais c'est pas mon point de vue.
Est-ce que c'est un peu comme un peintre qui aurait ses périodes, ses couleurs?
On pourrait le dire parce que c'est vrai que à certains moments, certaines choses m'intéressent beaucoup, et à d'autres moments, d'autres choses m'intéressent tout à fait, et les choses qui m'intéressaient 3 ans avant m'intéressent plus du tout. Mais ça veut pas dire qu'elles ne me réintéresseront pas. Il y a souvent des effets de retour.
Et il y a quelque chose d'un peu exclusif à ce moment-là, c'est-à-dire quand une chose vous intéresse beaucoup, les autres partent ou vous avez plusieurs choses un peu en quinconce?
C'est peut-être un peu les deux à la fois, mais il y a quand même quelque chose d'un peu exclusif, effectivement. Quand on s'intéresse beaucoup à un sujet en art, que ce soit un compositeur qu'on veut étudier ou bien une œuvre dans laquelle on décide de se plonger, qu'on avait peut-être en tête depuis un certain temps, mais dont on ne savait pas encore comment l'écrire, comment l'aborder. Il y a toujours quelque chose d'un peu exclusif, effectivement. Mais il y a toujours 15% ou 20% du cerveau qui est un peu ailleurs aussi, qui permet de construire aussi l'avenir.
Et de nourrir, évidemment, oui, en effet, tout ce qui va suivre. Quand vous parlez de sujets comme ça qui vous passionnent, vous êtes donc un artiste qui aimait les intégrales, que ce soit un cinéaste, que ce soit un écrivain, que ce soit un compositeur, c'est-à-dire de plonger dans une œuvre et d'essayer d'aller au plus profond. On est ici chez vous, je vois votre bibliothèque. Est-ce que vous avez ce goût-là pour vous dire « je vais lire tout Dostoïevski, tout Victor Hugo, écouter tout Beethoven » Est-ce que vous fonctionnez aussi un peu comme ça?
Je me méfierais quand même beaucoup de cette notion d'intégrale, parce que dans l'intégrale, il y a l'obligation. Et pour moi, il doit toujours quand même y avoir à la base ce désir de jouer telle œuvre, tel morceau. Par exemple, ça me fait penser aux études de Chopin, ou même aux préludes. Or, on sait que Chopin, par exemple, quand il faisait ses concerts, ne jouait pas un opus entier d'études, ou les 24 préludes. Il jouait 3 ou 5 préludes, suivis de 4 études. Voilà. Donc, je serais assez nuancé sur cette notion d'intégrale. Mais je pense, en revanche, que pour aller vraiment au fond d'un sujet, il faut s'immerger dedans d'une façon qui s'en rapproche.
Thank you. Vous nous avez dit que votre vie était musique, depuis l'adolescence et même un peu avant. On vous entendait à l'instant dans Chopin, vous aviez 17 ans. Alors, quand est-ce que commence la musique dans votre vie? Est-ce que vous naissez dans un berceau familial, un milieu de musiciens ou de mélomanes? Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de vos premières émotions musicales ou peut-être de vos premières envies?
Je ne viens pas d'une famille de musiciens, mais mon père est un homme qui est tout à fait mélomane et qui connaît assez bien la musique classique et même la musique moderne. Alors il a eu l'envie que nous fassions de la musique, donc du piano. Donc mes deux sœurs aînées ont fait du piano, et moi aussi.
Vous êtes le petit dernier de la fratrie ?
Exactement. Et moi, quand je m'y suis mis, un peu à ce moment-là, comme mes deux sœurs, eh bien, ça a été d'emblée une grande passion. J'avais vraiment le désir de faire des notes et de jouer. Enfin. Pour être tout à fait franc, j'étais peut-être un peu trop égoïste. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de temps sur le piano, vu que c'était, comme je vous l'ai dit...
terrain de jeu.
Ma passion, oui, c'est peut-être un terrain de jeu aussi, tout à fait. Et je leur ai moins laissé de temps, ce qui fait qu'elles ont moins eu de temps après pour faire du piano. Et en fait, elles ont continué un petit peu. Et puis, au bout d'un certain temps, peut-être 2 ans après, c'était moi qui faisais tout le temps du piano et elles avaient arrêté, en gros. Et j'ai commencé à improviser et j'ai développé mon oreille. Ce qui fait que, pour ainsi dire, je dois dire que quand je me suis mis au piano, après, je ne l'ai plus quitté. Mes parents ont bien sûr pris ça en compte, c'est-à-dire que ils ont, si je puis dire, évalué mon degré de passion et mon degré de talent. Puis j'ai pris des cours qui se sont très bien passés. Mais je préférais vraiment jouer moi-même, improviser, déchiffrer, que écouter. Je n'allais pas au concert, par exemple. En revanche, je commençais à écouter des disques, de la musique de chambre et des symphonies, et à découvrir le répertoire de la musique classique et de la musique moderne. Et puis, assez rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont beaucoup apporté et beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'abord ma professeure de piano, Claude Mayols, qui aujourd'hui est décédée.
Qui était professeur que vous voyez dans quel cadre alors ?
Qui était professeur au conservatoire du 13e arrondissement, à Paris. Qui était une professeure vraiment très très bonne.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 10 ans, environ.
Qu'est-ce qu'elle avait de particulier alors ?
C'était une professeure qui avait une technique exceptionnelle, hein, qui avait fait une assez grande carrière, qui avait même joué en duo avec Henri Tsering, le fameux violoniste. Et donc voilà, qui était vraiment, qui formait bien ses élèves. Et puis, j'avais une relation très forte avec elle parce que, voilà, elle aimait aussi la musique moderne, Berg, Bartok, c'est elle qui m'a fait découvrir tout ça. Et puis, en même temps, je commençais à composer déjà. C'est-à-dire que j'écrivais des petits préludes pour piano, des petites études qui étaient, souvent des pastiches dans le style de Chopin, dans le style de Schumann, dans le style de Bussy, peut-être. Donc, je lui montrais tout ça et il y avait une relation très forte.
Est-ce que vous avez des souvenirs de la petite enfance ?
Pas beaucoup. J'ai peu de souvenirs de la petite enfance. Mais mes souvenirs commencent effectivement à peu près quand j'ai 7 ans. Et d'ailleurs, c'est le moment où j'ai commencé à faire de la musique. Mmh. Voilà, je ne sais pas s'il y a une relation entre les deux, je ne pense pas forcément. Mais en tout cas, j'ai un souvenir très clair de ce qu'ont été effectivement mes débuts en musique grâce à ça. de fil en aiguille, j'ai rencontré un autre professeur qui est devenu un mentor tout à fait important, Émile Naoumoff.
Vous l'avez rencontré grâce à elle ?
Non, je n'ai pas rencontré grâce à Claude Maillot. J'ai rencontré grâce à ma mère qui avait entendu parler de lui qui habitait à ce moment-là à Paris. Et il s'est passé que je l'ai vu une fois par semaine jusqu'à ce qu'il parte aux États-Unis, donc à peu près quand j'avais 13 ans. On peut dire d'une certaine façon que c'est l'enseignement d'Émile qui m'a permis d'avoir le niveau pour rentrer au CNSM de Paris.
Émile Naoumoff, c'était quand même un prodige, hein. Élève, dernier élève de Nadia Boulanger. Est-ce que d'une certaine façon, vous diriez que vous vous êtes reconnu ?
Moi, je ne me suis pas reconnu, mais d'après ce que j'ai compris, lui, il s'est reconnu. Un petit peu, enfin, je le dis en son nom, mais je pense que c'était un petit peu ça qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il me parlait énormément de Nadia Boulanger, de l'enseignement qu'il avait reçu, et que lui voulait d'une certaine façon me donner ce même enseignement. Donc c'était très fort pour moi, j'avais vraiment l'impression, pas qu'une impression, d'être en contact avec Nadia Boulanger, son enseignement, et aussi toute cette belle époque, j'ai envie de dire, de la musique française autour de Nadia Boulanger, c'est-à-dire que, comme on sait, Nadia Boulanger était vraiment en amitié avec des gens comme Stravinsky, Bernstein, Jean Cocteau, Rostropovitch et de nombreux autres. Donc tous les dimanches, j'allais chez lui pour un cours qui était extrêmement long, très prolifique. Et c'est lui qui a commencé à m'aider en composition, par exemple à me parler des formes, à me parler d'orchestration, à me parler donc de tous ces outils qui sont nécessaires au bagage du compositeur.
Et c'était aussi le piano, Jean-Frédéric ?
Très peu. Avec Émile, c'était vraiment pas forcément le piano, mais plus une approche globale de la musique dans la tradition qui était la sienne de Nadia Boulanger. Donc, les cours de composition, avec une grande ouverture stylistique, j'amenais ce que je voulais et on travaillait dessus. Ça, je crois que c'est très important. Alors, parfois, bien sûr, des conseils, c'est-à-dire qu'il m'obligeait à refaire quelque chose, vraiment, parce qu'il avait vu que là, il fallait m'apprendre tel outil pour réaliser telle chose, dans la direction où je voulais aller pour cette pièce. Donc, il y avait quand même vraiment un enseignement. C'était pas à la cool. Mais ça laissait une grande part de liberté stylistique. Et aussi, toujours en deuxième partie du cours, de la réduction. Alors, je vais expliquer ce que c'est que la réduction
exactement.
Pour nos auditeurs. C'est-à-dire que on travaillait sur des partitions pour orchestre ou pour chœur. Par exemple, une cantate de Bach, une symphonie de Beethoven. Et donc, on la jouait au piano. Voilà, il me la faisait jouer au piano en ayant toutes les voix des différents instruments, mais en étant obligé de jouer seulement sur le piano, toutes les voix. Et lui me montrait un peu comment faire ça pour mieux connaître ce répertoire-là. Il y a une méthode, c'est une méthode de lecture, une méthode de, je dirais de sélection des informations qu'on a.
Mais c'est ça, comment est-ce qu'on décide ce qui est important en fait ?
Exactement, c'est tout à fait ça, vous l'avez très bien dit. Et donc on faisait de la réduction de pas mal de répertoires, notamment Bach, Beethoven, Fauré, qui était très cher à son cœur, et plein d'autres choses. Et donc ça m'a vraiment préparé pour rentrer au CNSM, dans les classes justement d'accompagnement, de musique de chambre et d'harmonie, contrepoint, que j'ai intégré plus tard.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Frédéric Neuburger.
Dans cette maison Neuburger, il y a donc les trois enfants. Que font vos parents ?
Alors, mes parents sont professeurs de français en collège ou éventuellement lycée. Voilà, bien sûr, ils sont à la retraite depuis longtemps maintenant. Bon, ils étaient séparés déjà quand j'étais tout à fait jeune. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a une autre personne qui a beaucoup compté pour moi, naturellement, c'est ma belle-mère, Sylvie, donc la deuxième femme de mon père, qui, elle, est professeure de philosophie, également à la retraite maintenant, qui a bien sûr compté beaucoup pour moi. Et puis, bien sûr, je ne parle pas de mes parents, de ma mère, de mon père, oui. Oui.
Quand vous nous décrivez ça, on se dit, professeur de lettres, de philosophie, vous allez plonger dans l'amour des notes, mais enfin, les mots doivent être bien présents, j'imagine, dans votre enfance. Il y avait une culture de la lecture, de partager aussi les mots.
Oui, on peut le dire, mais c'est la même chose. Je pense que c'est ce dont on peut se rendre compte quand on compose ou quand on va à la recherche du sens d'une partition, quand on interprète. C'est que la musique, c'est des phrases. C'est donc, il y a un phrasé dans la musique. Voilà, c'est assez évident de le dire. Dans la musique, il y a aussi des virgules, des points finaux, des points d'interrogation, des points d'exclamation, des parenthèses, etc. Donc c'est la même chose.
Vous, lorsque vous vous êtes mis à écrire, vous nous avez dit qu'il y avait dès le départ un passage qui est peut-être un peu obligé, qui est le « à la manière de », les exercices de style. Mais si on pense à ces phrasés, ces mots, ces virgules, ces parenthèses, est-ce que vous diriez que vous êtes plus sensible à une composition qui se fait une fois que l'idée est bien définie et que la composition vient asseoir quelque chose de déjà pensé, ou bien la composition est une composition aussi qui se fait au fil de la pensée et qui témoigne d'une pensée qui se cherche?
L'un ne me semble pas possible sans l'autre. J'ai parfois essayé de commencer une composition en me disant « ça y est, je vais avoir un plan vraiment défini à l'avance », etc. En fait, ça change toujours parce que le matériau décide à notre place souvent. Il y a du matériel qui doit prendre une certaine place. Et ça m'a fait penser à une phrase de Goethe. Je ne sais pas si je vais la retranscrire fidèlement, mais en gros, le sens de la phrase, c'est « tout ce qui naît doit peu à peu conquérir une certaine place ». Voilà, c'est valable pour un organisme, un corps, c'est valable pour, je ne sais pas, une idée. Une idée politique, c'est valable pour une maladie, on le sait très bien, c'est valable pour tout. Tout ce qui naît doit conquérir une certaine place. Et c'est pareil dans la composition, donc quand une idée naît, ça a beaucoup, beaucoup de conséquences en fait. Donc ça, c'est plutôt la deuxième option. C'est il y aura quelque chose qui va se décider au fur et à mesure de la composition. Mais en même temps, si on commence une composition juste sur ce principe-là, il y a quand même un risque que ça manque, comme on dit, de colonne vertébrale, de pensée sous-jacente, de désir esthétique même, ce qui peut être problématique. Donc l'un ne me semble pas possible sans l'autre du tout.
Un matériel qu'il exige. Ce matériel, c'est quoi? C'est une harmonie? Sont des instruments choisis?
Ça peut être, à mon avis, beaucoup de choses différentes. Ça peut être une harmonie, mais ça peut être aussi une couleur particulière d'orchestre. Ça peut être éventuellement un intervalle mélodique qui semble vouloir aller quelque part d'un seul coup dans la composition. Ça peut être un certain caractère qui se révèle dans la composition et qui n'était pas particulièrement présent dans les matériaux au début et qui a pu naître peu à peu.
Vous parlez de lumière, enfin de couleur, et je pense lumière. D'abord, on est chez vous ici au 7e étage, donc c'est un appartement qui est très lumineux. Mais la lumière, c'est une notion qui revient dans beaucoup de vos partitions. Des vitraux, des yeux, des cieux. C'est conscient, ça ?
Oui, c'est quelque part c'est conscient parce que je pense que cette envie de lumière qu'on a souvent, elle est très importante pour moi. Elle est très importante parce que je préfère que l'art nous conduise vers un peu plus de lumière dans tous les sens du terme, que vers plus d'obscurité.
Et vous, vous avez peur de l'obscurité ?
Non, pas particulièrement. Mais je pense de toute manière qu'en cherchant la lumière, on n'échappe pas à l'obscurité.
On parlait de cette enfance et de cette musique qui va prendre beaucoup de place. Un enfant, peut-être a fortiori un fils de prof, ça va à l'école. Cette partie-là, comment vous l'avez vécue ? Est-ce que l'école était aussi un terrain d'expérience heureux où le piano prenait toute la place ?
Non, j'aimais bien l'école. J'aimais bien l'école parce que c'est un lieu social par excellence. Et je pense que c'est aussi pour cette même raison que j'aime aujourd'hui le Conservatoire de Paris, où j'ai fait, bon, bien sûr, mes études quand j'étais adolescent, jeune homme, et où j'ai assez vite désiré devenir professeur. Je me suis présenté assez tôt. J'ai eu la chance d'être pris à ce poste que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, je pense que ce sont les mêmes raisons. C'est-à-dire que la musique, qui est volontiers quand même un travail assez solitaire, même si on le fait à plusieurs, même si c'est de la musique de chambre ou de la direction d'orchestre, il y a une partie qui est forcément, nécessairement solitaire, de préparation, de réflexion. Ça, voilà, même si on fait de la musique de la façon la plus sociale qui soit, on ne peut pas échapper à ce travail en solitaire. Tout de même
un quartettiste.
Ben, peut-être un quartettiste un peu moins, allez. Je vous le concède parce que c'est vrai que la création se fait à quatre, quelque part. La création d'interprétation. Mais peut-être c'est une exception. Et ben, par rapport à cette activité musicale qui est somme toute assez solitaire, des lieux comme le conservatoire, l'école, toutes ces institutions sont des lieux justement de sociabilité tout à fait importants et qui permettent justement aussi l'échange d'idées.
C'est sur cette rare sonate de concert d'Alcan que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Jean-Frédéric Neuburger. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Christophe Michou, mixage Julie Garraud, attachée de production Marie-Christine Ferdinand. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.